SBS Radio.
Au menu de ce journal, la police de Byron Bay dans les Nouvelles-Galles du Sud recherche toujours activement un jeune Belge porté disparu depuis le 31 mai. Le père de ce jeune homme qui s'appelle Théo Hayez est arrivé en Australie, on écoutera son appel à l'aide. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi est mort hier à l'âge de 67 ans. En France, les épreuves du baccalauréat ont commencé. Et à la Coupe du monde de football féminin, les Bleus se sont qualifiés cette nuit pour les huitièmes de finale après leur victoire face au Nigeria. En Australie, toujours pas de nouvelles de Théo Hayez, ce jeune Belge âgé de 18 ans et porté disparu depuis le 31 mai, date à laquelle il a été vu pour la dernière fois alors qu'il sortait d'une discothèque de Byron Bay dans les Nouvelles-Galles du Sud. La police sur place reste bien entendu mobilisée pour tenter de retrouver le jeune backpacker qui devait repartir pour Bruxelles le 12 juin dernier. Et le service de messagerie WhatsApp a lui fait savoir qu'il collaborait avec les autorités pour localiser Théo Hayez. Cette annonce en fait intervient après l'appel très ému du père du jeune homme à ouvrir l'accès au contenu du compte WhatsApp de son fils Théo et à l'intérieur duquel se trouve peut-être la réponse à sa disparition. Laurent Hayez, donc le nom du père de Théo, est arrivé en Australie en fin de semaine dernière. Il a également imploré les Australiens, l'ensemble de la population australienne, à l'aider à retrouver son fils. On l'écoute.
When I left Belgium, I promised Theo's little brother, Lucas, that I would bring his brother home. Please, help me keep my promise to him. People have the power. Let love rule.
Et on rappelle bien sûr que si vous avez des informations qui peuvent faire avancer l'enquête, vous pouvez contacter Crime Stoppers au 1-800-333-000. On prend maintenant la direction du Queensland où les forces de police sont empêtrées dans un scandale qui choque les associations de défense des personnes handicapées. Un jeune garçon d'origine indigène et souffrant d'un handicap mental a été détenu entièrement nu et plusieurs jours d'affilée au cours du mois de mars dans une cellule d'un poste de police de Brisbane. Sur ABC, Quan Farrant de l'association People with Disability Australia juge cette nouvelle, je cite, « absolument scandaleuse ». Elle considère que ce jeune garçon, laissé nu dans une cellule pendant trois jours, a subi un traitement, je cite, « indigne et en violation flagrante des règles en la matière ». Alors, ce genre d'histoire, ce n'est malheureusement pas la première fois que cela arrive dans le Queensland. On a eu d'autres cas d'enfants, parfois âgés de seulement 10 ans, qui se retrouvent placés en détention dans des prisons pour adultes. Le gouvernement du Queensland, qui est évidemment vivement critiqué pour ces pratiques, se défend en expliquant que les prisons pour mineurs sont pleines. Et on reste dans le Queensland où la première ministre Anastasia Palaszczuk a réaffirmé tout récemment le soutien de son gouvernement au projet de mine de charbon porté par l'entreprise Adani à Carmichael. Un soutien renouvelé qui intervient après que sa ministre de l'Environnement et elle étaient enregistrées en train de dire à des opposants à ce projet très controversé qu'elle était, je cite, dévastée par l'impact que cette mine aurait sur les aborigènes vivant dans la région. C'est, d'après Anastasia Palaszczuk, une phrase sortie de son contexte. On écoute sa réaction.
Let me be very clear. Every cabinet minister endorses the process. And that process was for the coordinator general to set those timeframes. Now, we want to see the jobs. I think everyone in regional Queensland want to see the jobs. Yeah.
À quoi ressemblera l'Australie dans 40 ans? C'est la question que s'est posée le CSIRO, l'Agence fédérale australienne de la recherche scientifique, qui publie ce mardi une étude selon laquelle la position économique et sociale de l'Australie pourrait être menacée d'ici à 2060, à moins qu'entre-temps le pays ne réponde de façon appropriée aux défis du futur. L'agence a pour cela comparé deux versions différentes de l'Australie en 2060. Une première où Les défis qui se posent sur le plan économique, social et environnemental ont été relevés. Et cette version laisse entrevoir un avenir plutôt positif pour l'Australie. Et une autre, en revanche, où rien n'a été fait et dans laquelle l'Australie se retrouve pour le coup confrontée à une phase de déclin. Des révélations qui appellent donc à adopter une attitude prudente malgré une situation économique et sociale actuellement très enviable en Australie, d'après le directeur du CSIRO, James Deverell. On l'écoute.
Some of what we found was actually quite confronting because whilst on the surface, Australia is in great shape. We've had 28 years of economic growth. We've got some of the most livable cities in the world. We've got amazing natural landscapes and so forth. But the world around us is changing rapidly, and there's no guarantee that all of that will continue.
On prend maintenant la direction du Caire en Égypte où l'ancien président Mohamed Morsi est mort peu après avoir comparu au tribunal. Alors Mohamed Morsi est l'ancien leader des frères musulmans et il avait surtout été élu président de l'Égypte lors des élections qui ont suivi le printemps arabe en juin 2012. Mais c'est certes le premier chef d'État démocratiquement élu en Égypte, mais il est resté au pouvoir seulement un an, chassé à la fois par des manifestants qui étaient très nombreux dans les rues, mais surtout par l'armée. Mohamed Morsi, qui est mort à l'âge de 67 ans, était depuis en prison. Il comparaissait donc hier au tribunal pour répondre d'accusations d'espionnage et plus particulièrement de contact avec l'organisation Hamas en Palestine. On fait le point sur ce personnage avec le spécialiste du monde arabe Alain Grèche, qui a répondu aux questions de nos confrères de RFI.
C'est surtout le premier président élu démocratiquement de l'histoire de l'Égypte contemporaine. C'est le seul qui a été élu avec des opposants, avec une campagne relativement démocratique. Il l'a emporté sur le fil du rasoir, mais c'était un événement historique dans l'histoire de l'Égypte. Alors, il n'a pas été à la hauteur, à mon avis, de sa tâche. Bien qu'il ait été élu avec une courte majorité, il s'est comporté comme si les 51% ou quelques de voix qu'il avait obtenues lui donnaient carte blanche sur tout. Alors, dans certains domaines, il a été assez pragmatique. Par exemple, il n'a pas remis en cause les accords avec Israël, alors que les frères musulmans étaient opposés aux accords de paix. Il a développé plutôt de bonnes relations avec les États-Unis. Il n'a pas changé grand-chose sur la politique extérieure de l'Égypte. En revanche, en politique intérieure, il a fait montre de tendances autoritaires qui ont mobilisé contre lui une partie de la société.
Et puis l'Europe prend ses distances avec les États-Unis vis-à-vis de l'Iran. L'État pétrolier est ces derniers jours dans le viseur de Washington, mais aussi de l'Arabie Saoudite, qui tous les deux accusent Téhéran d'être l'instigateur d'attaques mystérieuses contre des navires pétroliers dans le Golfe ces dernières semaines. Des accusations que l'Union européenne se refuse pour l'instant à faire sienne. Elle estime que les preuves censées prouver le rôle de l'Iran dans cette affaire sont encore insuffisantes. On écoute Sami Boukhelifa de RFI.
Prudence répète presque tous les chefs de la diplomatie des États membres de l'Union européenne. Pas question de lancer des accusations contre l'Iran sans avoir des preuves tangibles, avertit Jean Hasselborn. Pour le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, il faut se souvenir de 2002. Les Américains accusent Bagdad de détenir des armes de destruction massive et envahissent l'Irak l'année suivante. Les effets de cette guerre dévastatrice se font ressentir aujourd'hui encore.
On ne peut pas dire que tel ou tel est responsable sans le savoir tout à fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut se rappeler l'année 2002, une année avant le printemps 2003. Donc, je pense que les armes ne sont pas les moyens appropriés pour résoudre le conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Impossible.
En Europe, seul Londres semble convaincu par cette vidéo en noir et blanc publiée par l'armée américaine et censée apporter la preuve de l'implication de Téhéran dans des attaques contre des pétroliers dans le Golfe. Washington persiste. Cette vidéo est une preuve indéniable, affirme le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, avant d'ajouter « Nous fournirons des preuves supplémentaires ».
Et on reste en Europe pour aller plus précisément en France où c'est actuellement le Salon international de l'aéronautique au Bourget qui se trouve dans le nord de Paris. L'une des principales nouveautés cette année, c'est la présentation d'un avion de combat franco-allemand dont la maquette a été dévoilée et qui sera fabriqué par les groupes Dassault et Airbus. Le premier vol est prévu en 2025, mais on fait le point tout de suite sur cet avion avec Olivier Four de RFI.
Le voile est levé, la silhouette de l'avion de combat franco-allemand apparaît, 18 mètres de long, 14 mètres d'envergure, une allure futuriste et des formes empruntées aux avions furtifs déjà existants comme le F-35 américain, le YF-23 ou le J-20 chinois. Ce n'est qu'un concept à ce stade, précise-t-on chez Dassault. L'affichage d'une volonté et d'une ambition politique autour d'une maquette, cet avion pourrait toutefois être au centre d'un futur système combinant différents types d'armes aériennes, comme l'explique Bruno Fichefeux, le directeur du programme SCAF chez Airbus.
Ça va mettre en réseau des drones, des petits, des grands, qui vont travailler entre eux, avec l'avion, qui vont communiquer entre eux, qui auront un niveau d'autonomie assez avancé. Donc pour ça, on aura besoin de l'intelligence artificielle pour que le pilote il puisse commander toute cette flotte. C'est un travail d'équipe, oui.
Un horizon 2025 pour faire voler un premier appareil expérimental et des coûts de développement sur l'ensemble du programme qui donne le tournis, plusieurs dizaines de milliards d'euros sur des décennies. Olivier Four, au Salon du Bourget, RFI.
Et on reste en France, on quitte l'aéroport du Bourget pour se diriger vers les lycées, puisque hier ont démarré les épreuves du baccalauréat. Au total, ce sont 550 000 candidats à travers la France qui ont démarré hier les épreuves et qui commencent, comme le veut la tradition, avec l'épreuve de philosophie. Est-il possible d'échapper au temps ? La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain ? Voici certains des thèmes que les lycéens français ont eu cette année à décortiquer. On va voir si ça s'est bien passé à la sortie d'un lycée de la banlieue parisienne avec le reportage de Laurence Théo pour RFI.
Il y a ceux qui sont détendus comme Thomas, lycéen qui culmine à 1m80 et qui tient entre ses doigts une cigarette éteinte. Il a choisi le travail, divise-t-il les hommes.
C'est un sujet assez classique, en plus d'actualité. Donc c'était pas mal, avec ce que je connaissais un peu, ça allait très bien.
Il y a ceux qui n'ont pas foncé tête baissée comme Blanche, regard clair et joue piquée de taches de rousseur, qui s'est penchée sur le texte.
Je l'ai lu 3-4 fois avant de commencer à bien comprendre, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai l'impression que vraiment on voit un pâté de 20 lignes, et après, plus on lit et plus on comprend, et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
D'autres encore ont cité des tas de philosophes.
J'ai cité Marx, bien sûr, en priorité. J'ai parlé d'Hegel, en parlant des premières sociétés qui ont commencé à travailler, j'ai parlé de Hobbes, j'ai pu parler d'Aristote, de Kant, de Bergson, d'Anna Arendt, enfin, il y a beaucoup de philosophes qui ont parlé du travail, du coup.
Et puis, il y a les fins stratèges.
Mon objectif en philo, c'était de ne pas perdre de points, parce que personnellement, je ne suis pas un grand philosophe, donc je voulais juste pas perdre de points avec ça.
On a fait des simulateurs de notes. On sait que même si on a 5, on a notre bac, donc ça rassure.
Enfin, il y a ceux qui ont des préoccupations très concrètes.
Là, je vais aller manger parce que j'ai bien faim.
Et pour les plus sérieux, cap sur les révisions en histoire-géographie, la prochaine épreuve.
Parlons maintenant en football. La Chine et l'Espagne ont obtenu au cours de la nuit leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football féminin. C'est également le cas de la France qui s'est imposée cette nuit face au Nigeria, mais aussi de l'Allemagne avec une large victoire 4-0 face à l'Afrique du Sud. Alors une défaite, c'est toujours difficile à digérer, mais Désiré Ellis, qui est l'entraîneur de l'équipe d'Afrique du Sud, est néanmoins fier de la performance de ses joueuses au cours de la compétition.
I think we attracted a lot of fans and we were very grateful for the South African fans that came out to watch our games and many back home that watched on television. But we always knew it was going to be a challenge. But we're happy with the performance, but not the results. If we consistently play at the highest level, you know, we compete, we'll get better and better. And who knows, the sky's the limit for this team.
Et on fera un point sportif complet dans quelques minutes avec Jean-Noël qui présentera le magazine des sports. Tout de suite, on fait un point rapide sur la météo de ce mardi 18 juin. Il y a du soleil à Perth avec 18 degrés, de possibles averses à Adélaïde, 14 degrés, 13 degrés à Melbourne où le temps est humide, c'est exactement pareil à Hobart, des nuages sur Canberra et 12 degrés. Il fait un peu plus chaud à Wollongong, 19 degrés, à Newcastle, 21 degrés et à Sydney avec 20 degrés. Le soleil brille à Brisbane avec 25 degrés et il fait chaud à Cairns, 27 degrés, tout comme à Darwin où le thermomètre va monter jusqu'à 32 degrés.